L'Orient décrypté avec Jean-Pierre Perrin.
Bienvenue sur Radio Orient et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de L'Orient décrypté consacré aujourd'hui au guide suprême de la République islamique d'Iran. Depuis 1989, Ali Khamenei dirige le pays et son nom est revenu en force ces derniers jours dans le conflit Iran-Israël, car pour l'État hébreu, il incarne, avec le nucléaire iranien, l'adversaire principal à neutraliser. Pourtant, son accession à la plus haute fonction n'allait pas de soi. Né dans une famille modeste à Mashhad, au nord-est de l'Iran, Khamenei s'est frayé un chemin jusqu'au cœur du pouvoir révolutionnaire. De sa montée en influence sous Khomeini à son rôle pivot dans la stabilisation du régime après 1979, son parcours reflète les rouages internes de la République islamique. À l'heure où sa succession suscite autant de spéculations politiques que de questions sanitaires, revenons sur les étapes clés de sa trajectoire et sur l'impact de son héritage. Et pour en parler avec nous, Jean-Pierre Perrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, je le précise, grand reporter, collaborateur à Mediapart et spécialiste du Proche-Orient, Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Alors Ali Khamenei demeure en quelque sorte une énigme pour tout le monde et notamment pour les Occidentaux au vu de son parcours. Tout d'abord, comment les origines sociales et familiales du guide suprême ont-elles influencé sa formation religieuse et ses premières aspirations ?
Oui, alors déjà, il y a une auréole de mystère au-dessus de sa tête, tout simplement parce qu'il ne donne pas d'interview. Donc, pour creuser son histoire, creuser son passé, savoir un petit peu d'où il vient, quels sont ses buts politiques, quelle est sa famille, donc il faut déjà faire un travail d'historien. Et donc, sa famille, effectivement, des religieux modestes, une mère très pieuse, un père... religieux d'un rang moyen, disons, et lui va prendre ce chemin naturellement, en quelque sorte, puisque en Iran, c'est souvent des familles de religieux qui traversent les années. Et donc, lui va poursuivre la voie de ses parents avec simplement une petite divergence, c'est qu'il manifeste un intérêt tout particulier pour la littérature, Tolstoï, par exemple, d'après ce qu'on sait, mais aussi Victor Hugo, il aime beaucoup Les Misérables. Pour lui, Les Misérables, ça représente un sommet de la littérature, il parle même d'une œuvre miraculeuse. Et là, à travers cette lecture, Les Misérables, Victor Hugo, on voit déjà percer un certain nombre de préoccupations sociales qui ont pu l'habiter, je ne sais pas si elles l'habitent encore, ces préoccupations sociales qui ont pu l'habiter pendant le début de sa carrière de religieux et de révolutionnaire.
Oui, ben justement, vous avez cité Tolstoï, il y a aussi Victor Hugo, donc pas mal de philosophie. En quoi cette ouverture a-t-elle marqué son évolution politique et idéologique ?
Alors, elle l'a marqué dans un sens politique d'abord, puisqu'il a toujours été, du moins pendant ses jeunes années, proche d'une sorte de gauche islamique. Alors, c'est vrai que les mots gauche et islamique ensemble, c'est un peu difficile de les associer, mais quand même, il y a eu des préoccupations sociales. N'oublions pas que la révolution iranienne, la révolution islamique, s'est faite au nom des mustadafin, c'est-à-dire les déshérités dont parle le Coran. Et l'imam Khomeini, donc celui qui a fait cette révolution islamique, enfin, qui l'a dirigé et qui a été ensuite le premier guide suprême, eh bien, parlait de ces mustadafin comme la torche de l'islam, la torche qui illumine l'islam. Donc c'est très important et ils sont considérés comme un prolétariat islamique qui a particulièrement souffert des injustices sociales, des injustices politiques et donc qui sont l'ennemi par excellence des impérialistes, des Américains, d'Israël et tout ça. Donc pour en revenir à Khamenei. Donc, cette tendance littéraire qui conduit vers des auteurs qui s'intéressent au social, ça va sans doute déterminer un peu son orientation dans les premiers jours de la Révolution. Il va être proche des groupes, disons, plus à gauche de la Révolution islamique, mais quand même avec des préoccupations sociales.
Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que dans sa jeunesse, Ali Khamenei, frêle jeune homme au turban noir, jouait du tar, un luth à longs manches, et égayait les soirées de la bourgeoisie iranienne.
Alors, il faisait pas de folie, c'est dans ses dans ces milieux, même si certaines familles très proches du chat, je ne vais pas les citer là pour ne pas les inquiéter, mais dans ces familles très proches du chat, eh bien, ils venaient égayer les soirées. Alors, ce sont des soirées religieuses. Alors, on mange, on boit du thé, on fume éventuellement de l'opium, mais ce sont des histoires religieuses dans lesquelles, eh bien, on raconte toute la mythologie chiite qui tourne autour de l'imam Hussein, le troisième imam du chiisme, et dont on raconte l'agonie à Karbala et son massacre, ainsi que celui de sa famille. Alors, c'est l'occasion de longues litanies qui n'en finissent pas, et lui, sa voix faisait pleurer. Et très important, sa voix faisait pleurer, ça signifie qu'il a une belle voix, une voix qui suscite l'émotion, et ça, c'est très important.
Ali Khamenei est passé par Qom était une étape très importante dans ses années d'études. Quel rôle ont joué justement ces années dans sa vie et sa proximité notamment avec l'ayatollah Khomeini dans la formation de son engagement révolutionnaire?
Alors il est passé d'une ville sainte, Meshed, qui est la grande ville sainte iranienne, beaucoup plus que Rome, parce qu'est enterré à Meshed l'imam Reza. Et l'imam Reza, l'un des 12 imams du chiisme, surnommé très joliment le protecteur des gazelles, et donc est une ville beaucoup plus importante, qui apporte beaucoup plus de pèlerins, et donc beaucoup, beaucoup plus d'argent aux dignitaires religieux de cette ville. Et donc, il passe à Rome, et là, à ce moment-là, la vedette, c'est Khomeini. On n'est pas sûr qu'il ait suivi un parcours complet auprès de lui, mais en tout cas, ils se sont vus, il a sans doute profité de son enseignement. Il a été, comme la plupart des gens qui ont vu Khomeini, totalement transcendé par la personnalité du vieil ayatollah, qui est déjà très âgé à cet âge-là, à cette époque-là. Vous voyez, avec un message qu'on pourrait estimer dater des années 50, mais enfin bon, il va être figuré parmi ses disciples. Et c'est avec Khomeini qu'il va commencer à faire de l'action politique. Et il va être en chercher de nouveaux disciples, des nouveaux fidèles, des nouveaux militants. On est dans la politique quand même, pour renverser le régime du Shah, même si tout de suite on ne donne pas les vrais buts. Mais donc faire de la politique. Et là, il va avoir plusieurs arrestations, 4, 5 ou 6. Et donc, il va en prison connaître d'autres acteurs ou futurs acteurs de la révolution islamique qui n'a pas encore commencé et donc parfaire son éducation politique.
Alors justement, après la révolution de 1979, quel a été son rôle dans les premières structures du nouveau régime islamique?
Alors à ce moment-là, on a Khomeini. Totalement au-dessus de tout ce qui est imaginable. Il est considéré comme un personnage sacré. On dit même qu'on le voit, son ombre sur la lune, enfin, etc. Bon, tout un tas de fariboles, mais il y a une sorte d'atmosphère politico-mystique qui permet tout ça. Et puis, il y a un deuxième personnage très, très important qui est l'ayatollah Behechti. Elle est seule de la bande qui parle anglais, allemand, parce qu'il a été imam en Allemagne. Et lui, cette sorte de personnage, comment dire, qui cumule à la fois l'intelligence, la malignité, la détermination, capable de tous les coups fourrés, mais capable de toutes les ententes, enfin bref. Et lui, vraiment, disons, occupe tout l'espace politique, ou une grande partie de l'espace politique, ayant quand même un peu d'espace pour Rafsanjani, dont on parlera certainement. Mais bon, et lui, il va périr dans un attentat ourdi par les Moudjahidines du peuple en 1981. Et donc, à ce moment-là, avec sa mort, eh bien, l'espace politique s'ouvre pour tous les autres, pour tous ceux qui pouvaient apparaître comme des seconds couteaux. Si Behechti n'avait pas été tué, sans doute que la révolution islamique aurait connu un autre chemin. Et avec la mort de Behechti, eh bien, on a maintenant de l'espace politique qui s'ouvre pour Rafsanjani, pour Khamenei, pour d'autres moins connus comme Rajaï, etc. Et donc, Baonar, par exemple, très important aussi. Et puis après, il va y avoir encore un terrible attentat qui va complètement décapiter le parti de la République islamique, enfin, l'attentat dans lequel est mort Behechti. Donc, la plupart des hauts cadres du nouveau régime, il est là depuis un an et demi, deux ans, vont disparaître dans cet attentat. Et donc, place à ceux qui s'en sont sortis de cet attentat et maintenant, ils ont tout l'espace politique pour eux, Khamenei est de ceux-là. Il va avoir un poste très très important, c'est le poste d'imam de la prière du vendredi de l'université de Téhéran. Ce qui est paradoxal, c'est que les universités sont fermées. Mais celle de Téhéran ouvre à ce moment-là, le vendredi, pour son prêche, son prône du vendredi, très important. Pourquoi ? C'est parce que lors de ce prêche, eh bien, on donne des grandes lignes politiques, on donne les mots d'ordre, on lance les mots d'ordre, et on parle essentiellement de politique. Et là, on est dans une tribune militante, et preuve de cette tribune militante, il vient à la tribune s'exprimer, faire son prêche avec une Kalachnikov. En fait, c'est plutôt un fusil d'assaut américain à la main.
Alors justement, il est nommé imam de la prière et tout de suite, il n'est pas épargné puisque en 81, il est victime d'un attentat.
Oui, il perd son bras. Hein. Et donc, il devient alors un statut particulier dans l'islam chiite. C'est le martyr vivant. Il est martyr, mais il n'est pas mort. Donc, il est vivant.
Quel poids, alors, justement, à un martyr vivant ?
Un martyr vivant, eh bien, il est auréolé de la palme de martyr et puis en même temps comme il a survécu, eh bien il a droit à beaucoup de considération. Alors si c'est un simple combattant, il va avoir des compensations financières, on va même s'arranger pour que les martyrs vivants puissent trouver des femmes pour se marier, même s'ils sont complètement handicapés. Et donc, le martyr vivant est a un statut. Et lui, il a un deuxième avantage, c'est que c'est un Sayed. C'est-à-dire qu'il porte ce turban noir qu'il identifie immédiatement comme Sayed, c'est-à-dire descendant du prophète, de Mahomet. Descendant pour les chiites, plus important que Mahomet, aussi important, on va dire, aussi important que Mahomet, de la famille d'Hussein, qui sont eux-mêmes des petits-enfants du prophète. Donc, nous voilà avec un Seyed, martyr vivant, et puis proche de Khomeini, ça fait quand même trois gros atouts pour se lancer dans la bagarre politique, qui fait rage à ce moment-là. Les jeux ne sont pas tout à fait faits. Plusieurs tendances au sein de la République islamique, dont la sienne, qui est parmi la plus radicale. Mais il y a des tendances aussi révolutionnaires, mais avec en même temps conservatrices, qui sont incarnées par Rafsanjani. Nous avons d'autres beaucoup plus d'extrême islamisme d'extrême gauche, qui sont incarnées par l'imam Montazeri. L'imam Montazeri, je m'y arrête une seconde, c'est lui qui est supposé succéder à Khomeini. On l'appelle l'espérance de l'imam. L'espérance, voilà. C'est bien ce que ça veut dire. Et cette espérance de l'imam, eh bien, le chemin est tout tracé pour lui. Lui, il a passé combattant, résolu contre le Shah, et donc il a une popularité certaine même. Il est considéré comme un imam, un religieux gentil, un peu naïf, mais il plaît plutôt aux masses laborieuses. Il a des discours qui font rire parfois. Il pense par exemple aux filles qui sont laides. Il dit qu'il faut leur trouver des maris, il ne faut pas les laisser toutes seules. Vous voyez, il fait ce genre de discours qui plaît quand même. Et donc, lui va succéder à Khomeini. Mais en 88, il se passe un événement absolument terrible. C'est la fin de la guerre Iran-Irak. Ouf, direz-vous. Oui. Mais à ce moment-là, le régime a pris peur parce qu'il y a une offensive de l'opposition et il va complètement massacrer les prisonniers politiques. Des milliers de prisonniers politiques, essentiellement des moudjahidines du peuple, vont être massacrés dans les prisons parce que le régime a pris peur. Et donc, à ce moment-là, le seul personnalité du régime qui va demander des explications, c'est Montazeri. C'est l'imam Montazeri qui va dire « Mais je ne comprends pas tous ces massacres. Expliquez-moi. » Et il s'adresse à qui ? Il s'adresse au fils de Khomeini, Ahmed Khomeini, aussi personnalité, dont on n'a pas parlé. Et donc, Ahmed va lui répondre « Comment pouvez-vous dire ça ?» Et c'est le début de sa disgrâce.
On en vient à l'accession de Ali Khamenei au rang de guide suprême en 89, après la mort de Khomeini. Comment accède-t-il au pouvoir ? Comment a-t-il réussi à s'imposer comme le successeur de Khomeini malgré son manque de stature religieuse équivalente ?
Oui, alors Montazeri n'est plus là. Donc il y a un boulevard qui s'ouvre pour l'entourage de Khomeini. Alors il y a son fils Ahmad, mais Ahmad, il va bientôt disparaître et de toute façon, il a beaucoup de casseroles, si on peut dire. Alors donc il est mal placé pour lui succéder et puis il n'est pas sûr que l'imam aurait voulu que son fils se succède. Bien. Alors, le choix va se faire entre les deux grands ténors de la République islamique, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani et Khamenei. En fait, celui qui manœuvre le mieux, c'est Rafsanjani. Mais il va faire une erreur. Il va penser donner la succession de Khomeini à Khamenei, prendre pour lui la présidence de la République, parce qu'il pense que le président de la République aura plus de pouvoir. Mais pas du tout. C'est-à-dire, il n'a pas réalisé au combien aussi Khamenei est un fin manœuvrier. Alors, en fait, la position du guide va être plus importante que celle du président de la République. Alors, c'est pas fait comme ça, mais non. Mais finalement, il va avoir avec lui le dogme absolu qui est la suprématie des religieux sur le politique. Lui, en tant que guide suprême, guide de la révolution islamique, pas seulement de la République, mais de la révolution islamique, c'est-à-dire qu'il est guide pour tous les musulmans du monde entier, chiites d'abord, mais sans doute aussi en arrière-pensée de tous les musulmans. Et donc, il va s'imposer en disant, mais le guide a un rôle plus important que celui du président de la République. Commence un combat entre les deux hommes qui va s'étaler sur une vingtaine d'années et que Khamenei va toujours mener en tête. Rafsanjani n'ira jamais en prison, mais son entourage ira en prison, sa fille ira en prison, les frères auront des ennuis. Donc, il est un personnage important de la République islamique, Rafsanjani, mais le maître à bord, le guide suprême, comme son nom l'indique, le Rahbar, c'est Khamenei.
Alors justement, pour asseoir sa stature, sa posture et la conforter, il y a eu une réforme constitutionnelle en 89.
Oui, parce que pour être imam et pour être guide suprême, il faut avoir un bagage religieux important. Avec Khomeini, le problème ne se posait pas. Il avait toutes les qualifications. Donc, il incarnait, disons, il y avait une certaine légitimité religieuse pour incarner le poste de guide suprême. Khamenei n'est qu'un Najatul Islam, c'est-à-dire un rang intermédiaire dans la hiérarchie chiite. Donc, alors, il va faire des études pour essayer de combler son déficit religieux, en sciences religieuses. Mais bon, évidemment, le temps est compté. Et donc, on va faire effectivement une réforme constitutionnelle, qui est simplement une manœuvre au sein du régime pour lui permettre d'être légitime, mais pour les grands religieux, ce qu'on appelle les ayatollahs osma, eh bien, il ne sera jamais légitime. Mais bon, ceux-ci n'ont pas trop intérêt à se manifester, parce que, évidemment, le pouvoir ne le tolérera pas. Donc, certains religieux, quand même, auront le courage de le défier. Hein. L'ayatollah Shariat Madari, par exemple, se frottera quand même à la République islamique pour dire « Non, ce que vous faites n'est pas conforme au canon religieux et il sera mis en résidence surveillée, par exemple. » Donc, il prend le pouvoir donc, avec cette astuce constitutionnelle. Et puis, il a un point fort aussi dont on n'a pas parlé, c'est que depuis le début, il s'est toujours très bien entendu avec les gardiens de la Révolution.
Justement, pour consolider son pouvoir.
Pour consolider son pouvoir.
Il s'est appuyé, il a tout compris, il s'est appuyé sur les gardiens de la Révolution, les Pasdaran, et aussi sur les Basidji.
Oui, qui est la milice qui aujourd'hui a fusionné avec les Pasdaran. Donc, Basidji existe toujours, mais il y a un commandement unique. Et ce commandement unique, évidemment, il a toujours été choyé par Khamenei. Et en échange, eux lui ont toujours promis fidélité. Hein, il lui jure fidélité lorsque ses nouveaux membres intègrent les Pasdaran. Eh bien, je promets de fidélité au guide. C'est le guide de la révolution islamique. Eux sont les gardiens de la révolution islamique, vous voyez. Ils sont dans le même milieu, même si, évidemment, il y a des divergences, il y a des tendances au sein des gardiens, et si tout ne va pas forcément toujours pour le mieux.
Aujourd'hui, ces forces exercent un contrôle important sur l'économie, notamment, et la sécurité nationale. Cette alliance avec les Pasdaran est-elle un facteur de stabilité ou de fragilisation du régime ?
Alors, pour le régime, ça lui permet de tout contrôler. Il a la force la plus importante, beaucoup plus importante que l'armée régulière, l'Artesh, donc les gardiens, on les appelle SEPA, donc on a deux forces, l'armée régulière, Artesh, la force révolutionnaire, les Pasdaran et les Basidji, donc le SEPA. Et effectivement, le SEPA est la force militaire dominante, elle a pas seulement des forces terrestres, elle a des forces maritimes, une aviation, une très bonne marine en particulier. Et on l'a vu pendant la guerre Iran-Irak. Et donc, un contrôle et un service de renseignement particulier lié aux gardiens qui est très, très efficace, sans doute plus efficace que les services secrets gouvernementaux. Et puis, une force d'intervention à l'extérieur, c'est la force Al-Quds, la force Jérusalem, donc, qui est dirigée par, qui a été dirigée par, des, en général, la crème des Pasdaran. Et il y a eu Rezaï, puis il y a eu le fameux Soleimani que Donald Trump a fait assassiner en 2018.
Sous le règne de Khamenei, il y a eu plusieurs soulèvements populaires. Quel rôle a-t-il joué dans la répression de ces soulèvements, et notamment après la mort de Mahsa Amini ?
Alors, c'est pas forcément lui qui a joué un rôle déterminant dans ces soulèvements. C'était des soulèvements contre le régime, tout le régime, l'ensemble du régime. Mais effectivement, les écolières, on les a vues brandir un droit d'honneur devant la photo de Khamenei, ce qui est le sacrilège absolu. Et donc, il a été, en tant qu'incarnation de la République islamique, évidemment, il a été particulièrement visé par les manifestants. Ces portraits qui sont omniprésents dans les rues de Téhéran ont été déchirés, brûlés. Et donc, effectivement, lui a donné son aval à la répression, mais de toute façon, sans son aval, de toute façon, la répression aurait eu lieu. Bon, elle a été féroce, il y a eu bien d'autres révoltes, insurrections qui ont été matées en 2009-2010, 2019-2020. Et à chaque fois, évidemment, ce n'est pas lui qui s'en occupe. Lui, évidemment, c'est le guide suprême, il est au-dessus de tout ça, mais enfin, ce sont ses partisans. Simplement, on peut dire que le guide a un bureau, le Beit al-Khabar, qui est environ 1500, 2000 personnes, ce n'est pas exactement, cœur de Téhéran. Et c'est ce bureau, une sorte de second gouvernement, sans doute plus important que le gouvernement, disons, issu des élections, issu des législatives. Et donc, ce gouvernement parallèle, ou fantôme, eh bien, prend la plupart des décisions.
Alors, ces derniers jours, notamment pendant la période du conflit Israël-Iran, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas tellement entendu. Quelles sont les informations disponibles déjà le concernant ? Où est-il ? Et quelles sont les informations sur son état de santé ?
Alors évidemment, il a deviné très vite qu'il pouvait constituer une cible pour l'aviation israélienne qui a tué le chef d'état-major des Pasdaran, le général Salimi, d'autres généraux importants, le chef des services de renseignement des Pasdaran, y compris des personnalités qui ne sont pas liées au drame nucléaire, par exemple. Mais donc, beaucoup d'officiers ont été tués, beaucoup de gardiens de la Révolution ont été tués dans la hiérarchie. Et donc, évidemment, il a dû se dire, je suis une cible. Donc, on ne sait pas où il est, parce qu'on ne va pas nous dire où il est. Et bien évidemment, probablement dans un bunker. Alors, il a été très, très absent. Et il s'est primé au début, et puis vers la fin, on a vu une vidéo où alors il apparaît un petit peu en bout de course. On voit par exemple derrière lui, on voit une photo de Khamenei et elle est bancale. On a l'impression que c'est avec sa voix chevrotante qu'il est vraiment plus dans la course. Mais il reste le guide suprême. Alors pour combien de temps, je ne sais pas.
Se dirige-t-on, pour finir, Jean-Pierre Perrin, vers le crépuscule d'un règne ou plutôt un renforcement à la lumière de la trêve qui a été annoncée récemment ?
Lui est en bout de course, là, il a 86 ans, il est malade, il a un cancer depuis de longues années. Il vient de prendre un coup terrible quand même. Sa politique quand même, c'était sans arrêt de dénier à Israël le droit de vivre. Et là, il vient de subir son régime vient de subir des coups terribles. Et donc, il y a une humiliation. Il a perdu la face. Et le fait de ne pas avoir joué un peu le rôle de Churchill ou de Gaulle, en disant « je suis avec mon peuple face à l'agresseur, face aux assaillants », son silence, le fait qu'il ait un peu disparu, bon, ça ne va pas arranger les choses. L'apparence est importante contre le guide suprême, hein, vous savez, il ne se cachait pas en temps normal, il présidait des tas de réunions sans grande importance, et peu importe, mais il était quand même présent, et là, au pire moment, il disparaît. Donc ça va probablement affecter son prestige, ce qui lui reste, parce qu'il en a perdu énormément. Et donc, je pense qu'effectivement, il est à son crépuscule et qu'il a déjà, pendant la période des bombardements, établi un peu ce qui serait sa succession s'il venait à être tué. Hein, avec, ça serait un triumvirat, trois personnalités du régime. Et donc, combien de temps sera-t-il encore au pouvoir? Je ne sais pas.
Merci Jean-Pierre Perrin d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes grand reporter, collaborateur à Mediapart, spécialiste du Proche-Orient, Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Merci pour votre fidélité. Excellente suite de programme sur Radio-Orient.
L'Orient décrypté avec Jean-Pierre Perrin.